Chapitre 6. Les particules représentatives. Pour concevoir la préformation complète de l'animal dans l'élément sexuel, il fallait, de toute nécessité, admettre qu'un seul des éléments, mâle ou femelle suivant les théories, intervenait dans la formation de l'adulte, l'autre élément ne donnant au développement qu'une impulsion ou une alimentation nécessaire. Mais alors, comment comprendre que le jeune tienne à la fois des caractères de ses deux parents ? Comment le mulet se rapproche-t-il à la fois de l'espèce âne et de l'espèce cheval ? Il fallait des considérations baroques pour arriver à l'expliquer, et encore les explications enchevêtrées que l'on obtenait étaient-elles bien peu solides. Depuis longtemps, Hippocrate avait été amené à accorder aux deux sexes une importance équivalente dans la procréation des jeunes. Cette théorie, adoptée par Galien, mais négligée plus récemment par les spermatistes et les ovistes, a été reprise par Buffon. Or, si l'on accorde que les éléments mâles et femelles se combinent pour former le petit, que devient la théorie si séduisante de la préformation ? Comment expliquer que le nouvel être ressemble à des parents si compliqués ? C'est ici qu'intervient la théorie des particules représentatives. Comme il ne sera plus possible d'admettre que l'un des éléments sexuels était en réduction l'animal entier, il va falloir trouver quelque chose de nouveau pour comprendre comment toutes les parties du futur adulte sont représentées dans le germe provenant de l'union des sexes, car de supposer que toutes ces parties n'y sont pas représentées effectivement, Buffon, imbu des théories précédentes, n'y a pas songé. On connaît sa théorie des molécules organiques indestructibles. Ce qu'il y a de précis dans cette théorie, c'est cette erreur que les molécules vivantes existent dans la nature en nombre limité et ne peuvent ni se transformer en molécules brutes, ni se former aux dépens de ces molécules brutes. Les êtres vivants s'accroissent en se nourrissant aux dépens d'autres êtres vivants, et la quantité totale de vie ne varie pas. Voici maintenant qui est moins précis, et que l'auteur n'explique pas assez. Les liqueurs séminales du mâle et de la femelle comprennent des molécules organiques provenant des diverses parties du corps, et, il faut le comprendre sans que Buffon le dise explicitement, représentant chacune pour son compte la partie d'où elle provient. Une molécule venue du doigt indicateur droit représente le doigt indicateur droit, etc. Quand a lieu la fusion des liqueurs séminales mâles et femelles, les molécules correspondantes, celles du doigt du père et celles du doigt de la mère, se réunissent et, par suite de leur réunion, cessent de se mouvoir, se fixent dans une position d'équilibre déterminée précisément par la situation topographique de l'organe des parents d'où elles proviennent, de telle manière que, par exemple, les molécules du doigt indicateur droit se placent à droite, entre celles du pouce et du médius de la même main, etc. Vous voyez que ces molécules représentatives des diverses parties du corps savent bien leur rôle, puisqu'elles ne se trompent pas de route, et que le fils de l'homme est un homme comme son père. Indépendamment de la difficulté qu'éprouve notre raison à concevoir cette détermination de la place qu'occuperont dans l'embryon les molécules organiques provenant des divers organes des parents, détermination au moins aussi difficile à comprendre que le phénomène brut de la génération qu'il veut expliquer, je voudrais seulement attirer l'attention sur la valeur même de cette vertu représentative des molécules provenant des divers organes. Pourquoi le fils de l'homme a-t-il un foie ? Parce que dans l'embryon d'où il provient, s'étaient glissées des molécules à vertu hépative et qui avaient puisé cette vertu bizarre dans un séjour prolongé au milieu du foie du parent. Elles pouvaient provenir d'ailleurs, ces molécules hépatives, d'un muscle de veau ou d'une cervelle de mouton, puisqu'un enfant, sans avoir jamais mangé de foie, aura cependant un foie étant adulte. Et il y a là une grosse difficulté que Buffon n'a pas signalée, parce que tout le raisonnement que je viens de faire est implicite, mais non développé dans sa théorie. Comment s'acquiert la vertu hépative, cette vertu extraordinaire qui ressemble tant à la vertu dormitive de Molière ? Buffon ne s'en est pas inquiété, mais Weismann nous l'expliquera fort ingénieusement, comme nous le verrons plus tard. Il est impossible de ne pas retrouver dans cette théorie de Buffon une conséquence des théories précédentes de la préformation. L'embryon, avec toutes ses molécules représentatives, placées les unes par rapport aux autres, exactement comme seront placés plus tard les organes de l'adulte et comme l'étaient ceux des parents, n'équivaut-il pas absolument à l'homunculus de Dalampatius ? Seulement, c'est un homunculus provenant à la fois de la substance paternelle et de la substance maternelle, et s'il s'est constitué ainsi, semblable à eux, c'est à cause de la vertu déterminative des molécules organiques qui amène chacune d'elles à une place correspondant précisément à sa vertu représentative. À l'époque où écrivait Buffon, les notions sur la structure intime du corps humain étaient trop rudimentaires pour qu'une tentative d'explication de la génération eût la moindre chance d'aboutir. On ne peut donc reprocher au grand naturaliste de n'avoir pas réussi dans cet essai, mais il est regrettable qu'il se soit abusé lui-même et ait trompé ses contemporains par l'apparence scientifique de mots vides de sens, par des explications identiques, je le répète, à celles du médecin de Molière. Il a fallu d'ailleurs que cette doctrine de la préformation fût profondément ancrée dans l'esprit des hommes, puisque nous allons la retrouver, légèrement dissimulée, il est vrai, chez les plus grands savants d'une époque où la structure cellulaire et l'embryologie étaient déjà admirablement connues. Il est temps de poser le problème de manière précise. L'œuf fécondé construit l'homme, par son activité propre, au moyen des matériaux qui sont à sa disposition, exactement comme l'abeille construit sa ruche par son activité propre, en se servant de produits qu'elle fabrique elle-même aux dépens de substances extérieures. Un œuf d'homme ne peut pas construire un chien, mais une abeille ne peut pas construire un nid de guêpe. Les ruches sont caractéristiques des espèces. Est-ce que l'abeille ressemble à sa ruche? Avez-vous jamais songé à trouver, dans l'abeille, la partie qui correspond à la cloison de droite de la troisième loge du deuxième rang? Pourquoi alors voudriez-vous que l'œuf ressemblât à l'homme qu'il doit construire? Ou du moins, puisque le microscope permet aujourd'hui d'affirmer qu'il n'y a pas d'homunculus dans l'œuf, pourquoi voulez-vous que le foie, le cerveau, y soit représenté par des particules définies? Et cependant, l'homme est déterminé dans l'œuf, c'est-à-dire que si vous fournissez à l'œuf les matériaux nécessaires dans les conditions convenables, cet œuf construira un homme et non un chien. Mais la ruche aussi est déterminée dans l'abeille. Si vous fournissez à l'abeille les matériaux convenables, elle construira une ruche d'abeilles et non un nid de guêpes, et cependant vous trouveriez extraordinaire qu'on voulût vous montrer dans la substance de l'abeille une particule représentative de la cloison de droite de la troisième loge du deuxième rang. Je suppose même qu'on vous ait parlé de cette particule représentative, sans vous la montrer naturellement, et sans vous expliquer comment elle est représentative d'une cloison particulière de la ruche. En serez-vous plus avancé? Ne serez-vous pas aussi instruit en disant « L'abeille a la propriété de construire une ruche », que si vous énonciez l'hypothèse « L'abeille contient des particules dont chacune a la propriété de déterminer la formation d'une cloison donnée de la ruche ». Qu'est-ce qui est plus clair? L'opium fait dormir, ou bien l'opium a une vertu dormitive dont la nature est d'assoupir les sens? Voyons s'il y a quelque chose de plus dans les gémules de Darwin. Les gémules de Darwin. Avant que l'on connût la structure cellulaire du corps des animaux supérieurs, on ne limitait pas avec rigueur les parties auxquelles correspondaient les particules représentatives dans l'homunculus du germe. Y avait-il une seule particule pour le doigt indicateur de la main droite, ou bien y en avait-il une pour sa phalange, une pour sa phalangine et une pour sa phalangette? Cela n'était pas précisé. Une fois la cellule connue, l'unité est parfaitement déterminée. Ce seront les cellules du corps qui seront représentées individuellement dans l'homunculus par des particules spéciales. Tel est l'état de la théorie dans les gémules de Darwin. Ces gémules diffèrent quelque peu des molécules organiques de Buffon. Ainsi, par exemple, elles se multiplient dans les cellules qu'elles sont destinées à représenter. Mais, à part quelques différences, elles jouissent à peu près des mêmes propriétés que les molécules de Buffon. Chaque cellule de l'organisme produit un grand nombre de gémules qui toutes représenteront exactement la cellule où elles sont nées telle qu'elle était au moment de leur naissance, et qui toutes, voyageant ensuite à travers l'organisme, auront la vertu spéciale de donner à toute cellule neutre dans laquelle elles pénétreront les caractères de la cellule d'où elles proviennent. Car il ne faut pas oublier que pour Darwin, la cellule n'est pas différenciée par elle-même. Elle est neutre et ne reçoit ses caractères que des gémules qui y pénètrent et s'y multiplient. Naturellement, comme pour les molécules de Buffon, une au moins des gémules de chaque cellule du corps viendra dans chaque élément sexuel. Tout ovule ou tout spermatozoïde contiendra donc les gémules représentatives de toutes les cellules de l'animal correspondant. L'œuf fécondé contiendra des gémules de toutes les cellules des deux parents. Voilà l'homunculus. Mais les progrès de la microscopie et de l'embryologie ne permettent plus de croire que ces gémules affectent dans le germe, comme dans la théorie de Buffon, une disposition analogue à celle des organes de l'adulte. Est-ce à dire que les gémules de Darwin n'auront en commun avec les molécules de Buffon que la vertu représentative et seront dépourvues de la vertu déterminative qui amenait chacune d'elles à une place correspondant précisément à sa vertu représentative? Pas le moins du monde. Seulement, cette vertu déterminative, au lieu de s'exercer immédiatement entre les gémules qui sont dans l'œuf fécondé, s'exercera au fur et à mesure du développement. L'œuf se segmente plusieurs fois consécutivement, de manière à donner naissance à toutes les cellules de l'organisme, mais ces cellules sont neutres par elles-mêmes et ne reçoivent leur différenciation que des gémules qui y viennent. Aussi les gémules, grâce à leur vertu déterminative, se dirigent toutes comme il faut pour construire un adulte semblable aux parents. Celles de la phalangine du doigt indicateur gauche se rendront toutes là où doit se faire ce doigt indicateur gauche et y produiront qui un muscle, qui un os, qui un globule sanguin, suivant la vertu représentative de chacune. Et voilà, vous voyez bien qu'il y a toujours dans l'œuf un homunculus déguisé, inavoué, car si chaque gémule n'a pas une place déterminée dans la morphologie de cet homunculus, elle a en puissance la propriété de la dessiner en grand dans l'adulte qui en proviendra. C'est peut-être encore plus compliqué que la théorie de Buffon, et cela n'explique rien de plus. C'est toujours la vertu dormitive de Molière. Weismann. Avec Weismann, nous faisons un pas de plus dans l'échelle de la complication, sans en faire un seul dans le sens de la clarté et de la précision. Nous allons nous retrouver en présence des vertus représentatives ou déterminatives, des propriétés mystérieuses, des mots spécieux enfin, qui dissimulent l'absence d'explication réelle des faits. Et ce qu'il y a de plus grave, c'est que ce système si complexe, son auteur va le croire assez infaillible pour se permettre de nier, en s'appuyant dessus, les résultats les mieux acquis de l'observation courante. Il est d'ailleurs merveilleux d'ingéniosité, ce système de Weismann, pourvu qu'on accepte le point de départ, les vertus dormitives sur lesquelles il est basé. Aussi l'auteur n'y est-il pas arrivé du premier coup. Il a publié un certain nombre d'essais successifs qui se sont complétés, corrigés, contredits quelquefois. Je ne m'occuperai que des parties les plus importantes et les plus définitives de l'édifice, mais je crois inutile, après les considérations précédentes, de m'attacher à démontrer longuement que cet édifice laborieux est construit sur le sable et de montrer combien facilement s'y appliquent les réflexions de Wallace sur les théories qui sont fausses. Et d'abord, nous allons retrouver dans les plasmas ancestraux l'équivalent virtuel de l'emboîtement des germes. Les plasmas ancestraux sont des particules comprises dans le noyau des cellules reproductives et qui ont la vertu de représenter les caractères des ancêtres, ce qui explique naturellement l'hérédité et l'atavisme. Ces particules jouissent, comme les gémules de Darwin, de la propriété de se multiplier sans se modifier. Voici comment Weismann explique la présence de nombreux plasmas ancestraux différents dans une cellule reproductive d'une espèce actuelle. Les protozoaires ne contiennent qu'un seul plasma, représentatif de leur caractère spécifique. Or, au début, il n'y avait que des protozoaires. Ces protozoaires se multipliaient par bipartition, leur plasma représentatif aussi, de telle manière qu'il y eut toujours un plasma représentatif par individu. Ces protozoaires étaient susceptibles de varier et, je ne sais comment, leur plasma représentatif variait en même temps, de manière à rester représentatif des caractères actuels de leur propriétaire. Voilà donc, comme point de départ, un grand nombre d'espèces différentes de protozoaires. Quelques-uns pouvaient peut-être, par suite de certaines variations acquises, donner naissance à des agglomérations pluricellulaires à cause d'une certaine adhérence entre les produits des bipartitions successives, mais dans tous les cas, il n'y avait qu'un seul plasma représentatif et, par conséquent, si j'ai bien compris, pas de différence entre les diverses cellules de l'agglomération. C'est bien là, il me semble, l'équivalent, mis au courant des progrès de l'histologie, de l'emboîtement des spermatistes. Les choses en seraient restées à ce degré de simplicité si un phénomène nouveau ne s'était produit, le phénomène de la fusion de deux cellules d'espèces différentes, que Weismann appelle fécondation, quoique en général nous considérions, actuellement au moins, la fécondation comme à peu près impossible entre des cellules qui ne sont pas de même espèce. Enfin, cela a pu ne pas se passer de la même manière autrefois, précisément avant que fussent constituées les espèces que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi cette fusion entre des cellules dont chacune était capable de vivre par elle-même ? Weismann n'en donne pas d'explication, ou du moins il en donne une tellement téléologique que j'ose à peine croire qu'il lui ait attribué une importance quelconque. Cela était nécessaire d'après sa théorie même, pour que des êtres plus différenciés apparussent, et c'est pour cela que cette fusion s'est produite. Mais quelle vertu, déterminative ou autre, exigeait l'apparition d'êtres plus différenciés ? Pourquoi fallait-il qu'il y eût au monde autre chose que des protozoaires? Néanmoins, admettons cette fusion sans en chercher les raisons. La cellule qui en résultera contiendra deux plasmas représentatifs et accumulera ainsi les caractères de deux cellules parentes, de sorte que, si elle donne naissance à une agglomération polyplastidaire, par suite de l'adhérence réalisée entre les produits de ces bipartitions successives, il pourra y avoir dans cette agglomération des éléments de deux espèces, l'espèce du père et celle de la mère. Encore faudra-t-il pour cela que les bipartitions successives soient hétérogènes et séparent le plasma représentatif père du plasma représentatif mère dans quelques-unes ou moins des cellules, sans quoi toutes les cellules seraient encore identiques, quoiqu'ayant des caractères multiples, ceux du père et ceux de la mère tout à la fois. L'hypothèse des bipartitions hétérogènes s'impose donc dès le début dans le système de Weismann. Mais néanmoins, il y aura des éléments de l'agglomération qui, par vertu spéciale, contiendront les deux plasmas représentatifs du père et de la mère, sans quoi le système de Weismann ne pourrait pas s'élever. Ces éléments spéciaux sont appelés éléments sexuels. Leur plasma représentatif s'appelle plasma germinatif. Si le père avait le caractère A et la mère le caractère B, le plasma germinatif du fils contiendra les caractères A plus B. Oui, mais cela ne suffit pas. À côté de cet être à caractère A plus B, une autre fusion de deux espèces avait créé un être à caractère C plus D. Eh bien, les éléments sexuels de ces deux êtres à caractère double vont se fusionner pour donner une cellule à quatre plasmas représentatifs A plus B plus C plus D. Pourquoi cette nouvelle fusion de deux espèces différentes? Parce que, sans cela, il ne se formerait pas d'être supérieur, et Weismann nous a déjà dit qu'il fallait des êtres supérieurs. Voilà, en effet, que de cet être à quatre plasmas, il va pouvoir se former par bipartition hétérogène des cellules très différentes, AA plus CB plus CD, etc., ou au moins de quatre types A, B, C, D, suivant les hypothèses que l'on fera, et ici l'imagination a libre cours. Mais néanmoins, il y aura toujours des éléments cellulaires spéciaux qui, par vertu spéciale, contiendront les quatre plasmas ancestraux. Ce seront les éléments sexuels. C'est la loi de la continuité du plasma germinatif. Et ainsi de suite. Nous pouvons imaginer que ce petit manège se répète aussi souvent que nous le voudrons, et quand nous l'aurons répété n fois, nous aurons un être dont le plasma germinatif contiendra 2 puissance n plasmas représentatifs, ou plasmas ancestraux si vous préférez, et qui, par conséquent, pourra présenter dans les diverses parties de son individu, par suite des bipartitions hétérogènes de son développement, les caractères de tous ses ancêtres. Nous, hommes, nous sommes le résultat de cette complication progressive et nous avons eu, par conséquent, si j'ai bien compris, des grands-pères leucocytes, des grands-pères neurones, des grands-pères corpuscules olfactifs, voire des grands-pères poils de moustache. Et aussi, dans la série intermédiaire, d'autres ancêtres, neurones plus leucocytes, ou toute autre combinaison analogue. Or, quelque petites que soient les particules représentatives, si leur nombre croissait indéfiniment, elles finiraient par ne plus pouvoir tenir dans un noyau cellulaire qui n'est jamais bien gros. Aussi aurions-nous pu croire qu'il arriverait un moment où les phénomènes de fusion de deux éléments cellulaires différents cesseraient, par suite d'une pléthore de caractères. Mais alors, l'évolution serait arrêtée. Comment le progrès serait-il possible, puisque la sélection, cause de progrès, ne peut agir qu'entre des éléments variés, et que, pour Weismann, la seule cause de variation est dans cette fusion même? Il faut pourtant qu'il y ait progrès. Voici comment cela devient possible. Au moment où s'est réalisée cette pléthore de caractères, les éléments sexuels, soucieux d'assurer l'avenir de leur espèce, ont pris l'habitude d'éliminer la moitié de leurs particules représentatives, et alors deux éléments réduits de moitié et différents peuvent, en se fusionnant, redonner une cellule qui a encore le nombre maximum de caractères possibles, mais cette fusion assure la variation, c'est-à-dire les chances de progrès, et désormais, cela continuera ainsi indéfiniment. Cette élimination d'une moitié des plasmas ancestraux, on la constate dans la formation du second globule polaire qui détermine la maturation de l'ovule. Le spermatozoïde apporte ensuite à l'ovule une autre demi-part des plasmas ancestraux, et cela fait un œuf fécondé qui a toujours le nombre maximum de caractères possibles. Et si, par erreur, l'ovule et le spermatozoïde avaient éliminé tous deux les plasmas ancestraux qui déterminent l'œil droit, L'œuf donnerait un produit pourvu de deux yeux gauches. Tout ceci a l'air d'une plaisanterie, et cependant c'est là véritablement la théorie des plasmas ancestraux de Weismann. Indépendamment des critiques qui peuvent s'adresser au raisonnement téléologique de l'auteur, il y a un très grave reproche à lui faire au sujet de l'extension abusive des phénomènes sexuels. Nous constatons aujourd'hui, d'une manière courante, la reproduction sexuelle des êtres, c'est-à-dire la fusion de deux plastides d'une espèce donnée. Que ces deux plastides n'aient plus chacun, par suite des phénomènes de maturation, que la moitié des caractères de l'espèce considérée, cela est parfaitement acceptable. Mais néanmoins, deux objections évidentes surgissent à ce sujet contre le système de Weismann. Premièrement, pour être incomplet et ne présenter chacun que la moitié des caractères de l'espèce donnée, les deux plastides complémentaires dont nous constatons la fusion n'en sont pas moins de même espèce, tandis que le système de Weismann exige, pour expliquer la formation progressive des êtres supérieurs, que, au moins au début, il y ait eu fusion de plastides n'ayant que des caractères différents. Toute fusion entre plastides ayant les mêmes caractères ne détermine aucun progrès. N'y a-t-il pas abus à appeler phénomène sexuel des fusions comme celles que place Weismann au début de son échelle ascendante? Et constatons-nous aujourd'hui rien de semblable entre des plastides autres que ceux qui proviennent par des doublements d'une même espèce plastidaire? Avez-vous jamais vu la fusion d'une amibe et d'une paramécie? Et n'est-ce pas là, précisément, l'analogue de la fusion de A plus B avec C plus D? Mais la deuxième objection ajoute encore à l'importance de la première. Deuxièmement, voici deux plastides A plus B et C plus D, dont chacun a vécu jusque-là par lui-même, c'est-à-dire s'est multiplié par bipartition, sans autre secours que celui des matériaux empruntés au milieu. Un beau jour, ils se rencontrent et se fusionnent en vue du progrès futur. Si vous voulez, nous supposerons pour simplifier que 4 est le nombre maximum de plasmas représentatifs dans un noyau cellulaire. Le raisonnement serait le même avec 2 puissance n, seulement on partirait alors des plastides ayant un nombre de caractères égal à 2 puissance n moins 1. Le plastide A plus B plus C plus D, plastide ayant le maximum de caractères, va se dédoubler en éléments sexuels, comme nous l'avons vu. Et ces deux éléments, A plus B et C plus D, ovules et spermatozoïdes, vont désormais être incapables de vivre par eux-mêmes, c'est-à-dire d'assimiler et de se multiplier. Pourquoi cela? Leur grand-père A plus B et C plus D s'étaient toujours multipliés par eux-mêmes jusqu'au jour de la fusion. D'où vient cette incapacité subite? En d'autres termes, un ovule, moitié de plastide actuel, est toujours la reproduction exacte d'un ancêtre doué de bipartition propre. Pourquoi donc Weismann admet-il maintenant que la parthénogenèse, ou bipartition propre d'un élément sexuel, ne peut plus avoir lieu que si cet élément n'a pas subi la division réductrice de l'expulsion du deuxième globule polaire? Autrement dit, pourquoi n'y a-t-il plus aujourd'hui à pouvoir assimiler par eux-mêmes que les plastides ayant 2 puissance n caractères, alors qu'autrefois cette propriété d'assimilation était dévolue à des ancêtres qui n'avaient que 2 puissance n moins 1, 2 puissance n moins 2, etc., 2, 1 caractères? La réponse est immédiate. Ces prétendus ancêtres n'ont jamais existé, puisque nous constatons que des êtres semblables à ce qu'ils ont dû être sont incapables de se multiplier. Donc, la théorie des plasmas ancestraux, déjà si difficile à accepter avec toutes ces hypothèses téléologistes, est évidemment fausse. Nous avons le droit d'affirmer que s'il y a eu des plastides ancêtres ayant 2 fois moins de caractères que les plastides actuels d'une espèce donnée, et cela, personne ne peut plus en douter, la complication progressive des espèces étant aujourd'hui au-dessus de toute discussion. S'il y a eu, dis-je, de tels plastides ayant 2 fois moins de plasmas représentatifs dans leur noyau, ces plasmas représentatifs étaient forcément différents de ceux qui existent aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui un plastide à 2 puissance n-1 plasma actuel ne peut plus assimiler. Mais alors, tout le système de Weismann s'écroule, puisqu'il est uniquement basé sur l'intangibilité, l'immutabilité de ces plasmas représentatifs qui conduisent à la continuité du plasma germinatif. On a fait bien d'autres objections à la théorie des plasmas ancestraux. Celle que je viens de lui opposer suffirait, il me semble, à la faire rejeter, même si l'on avait admis comme point de départ les vertus dormitives sur lesquelles elle est fondée. Est-il bien nécessaire, au point où nous en sommes, de détailler les autres parties du système de Weismann? Il ne serait pas juste de faire ressortir ce que cette théorie a d'invraisemblable sans montrer aussi comment s'y est manifestée une ingéniosité extraordinaire, d'ailleurs dépensée en pure perte sur un sujet forcément stérile. Je ne puis m'étendre sur la jolie interprétation du premier globule polaire éliminant le plasma ovogène, et je laisse de côté ce qui a trait aux plasmas ancestraux pour aborder la théorie parallèle des déterminants. Les particules représentatives simples dont nous avons parlé jusqu'à présent ne pouvaient, on l'a vu, quoi qu'en ait pensé Weismann, représenter autre chose que les caractères isolés des protozoaires ancêtres, le neurone, le leucocyte, etc. Leur existence n'expliquerait donc que l'hérédité de l'histologie et non l'hérédité des formes compliquées d'amas cellulaires, la forme du nez par exemple. Or, dans bien des cas, on constate que le nez se transmet de père en fils pendant plusieurs générations. Les déterminants de Weismann donnent la clé de ce phénomène. Les caractères élémentaires des cellules ont comme particules représentatives des biophores infiniment petits qui, contenus dans le noyau, se diffusent dans le protoplasma inerte et s'y distribuent d'une manière parfaitement déterminée sous l'influence d'une vertu déterminative spéciale. C'est à cette distribution topographique de biophores, homunculus de premier ordre, que chaque cellule, inerte en elle-même, doit toutes ses propriétés. Les biophores, doués naturellement de la multiplication par bipartition, sont tous représentés dans le noyau de l'œuf, dans le plasma germinatif. Mais ils n'y sont pas distribués au hasard. Tous les biophores destinés à une même cellule de l'adulte sont, déjà dans le plasma germinatif, unis en un groupement indissoluble, l'embryon de l'homunculus de premier ordre de la phrase précédente. Ce groupement est le déterminant de la cellule considérée de l'adulte. Il suffit qu'il y ait, dans le plasma germinatif, un seul déterminant pour toutes les cellules qui seront semblables chez l'adulte. Le déterminant est en effet susceptible de se multiplier par division. Voilà pour les cellules. Mais les cellules ne sont pas distribuées au hasard chez l'adulte, pas plus que les caractères chez la cellule. Aussi les déterminants ne sont-ils pas répartis d'une manière quelconque dans le plasma germinatif. Tous les déterminants des cellules du nez seront, par exemple, réunis dans un groupement à structure spéciale, l'homunculus de deuxième ordre ou id. Mais c'est un homunculus honteux et déguisé comme celui des gémules de Darwin. Il ne ressemble pas du tout physiquement au caractère morphologique qu'il déterminera, il en a seulement la vertu déterminative. L'id, comme le déterminant, se multiplie par division. Dans l'esprit de Weismann, ce sont les id qui sont les plasmas ancestraux. Mais alors, ces plasmas ancestraux seraient plus compliqués que nous ne l'avons cru tout à l'heure puisque nous n'y trouvions que des caractères de protozoaires. Nous serons obligés, pour faire disparaître cette contradiction, d'admettre que les plasmas ancestraux primitifs, A, B, C, D, se sont groupés successivement dans les êtres de plus en plus complexes, en groupements caractéristiques et intangibles qui se sont transmis ensuite de père en fils depuis ces ancêtres de second ordre et sont les ides actuels. Dans cette hypothèse, le nombre des caractères ancestraux réunis dans un même être est singulièrement diminué, et je ne sais si Weismann accepterait cette interprétation. Il vaut mieux s'en tenir avec Hartog à cette opinion que les plasmas ancestraux sont ceux des protozoaires ancêtres. Mais alors, tout se contredit. Je n'insiste pas sur la lutte des déterminants et autres choses ingénieuses. Un seul exemple montrera avec quelle facilité Weismann a toujours répondu à la part des objections qu'on lui a posées par une hypothèse nouvelle. Voici un crabe adulte. On lui casse une patte. Elle repousse semblable à elle-même. C'est que, dit Weismann, il existe des déterminants de réserve qu'un traumatisme seul a le pouvoir de mettre en activité. Et si le phénomène se reproduit, il invoquera les déterminants de réserve deuxième catégorie. Il manie avec une aisance incroyable ces déterminants si précieux. Il les rend actifs quand cela est nécessaire et les met en réserve quand il lui plaît sans nous dire pourquoi. Et cela est bien commode pour expliquer la transmission héréditaire des caractères latents. Mais toutes ces hypothèses sont au moins aussi compliquées que les faits dont elles donnent une explication. Et encore, cette explication se réduit-elle à une formule spécieuse qui semble explicative quand on n'y fait pas attention. Il est vraiment étonnant que ce système invraisemblable et fragile, cet échafaudage d'hypothèses compliquées, ait provoqué un engouement si profond et si durable chez des philosophes et des naturalistes. Mais cet engouement inexplicable a été, au moins d'une manière, Utile à la science en provoquant des études minutieuses sur l'hérédité des caractères acquis, ce fait capital de la biologie générale et de l'histoire de la formation des espèces, et que le système de Weismann rend inadmissible. Jusqu'à lui, tout le monde y avait cru, mais il s'est trouvé dans la nécessité de refuser d'y croire ou de renoncer à son système, et il a bravement pris le premier parti. Les néo-darwiniens se sont jetés à l'eau avec lui et ont combattu avec acharnement les néo-lamarckiens partisans des acquisitions héréditaires. On a épluché tous les faits jusque-là indiscutés de transmission de variations et de traumatismes. On a trouvé que beaucoup étaient erronés. On a cherché et on en a découvert de nouveaux, plus probants. On a fait des expériences et rien n'a peut-être été plus favorable au développement de la biologie générale que cette discussion acharnée. Il faut donc savoir gré à Weismann du courage et de la ténacité dont il a fait preuve en soutenant malgré tout son système caduc et, si ce système est, d'ores et déjà, rangé parmi les théories fausses dont parle Wallace, il aura du moins eu le mérite de provoquer un mouvement d'idées et des luttes savantes qui auront jeté une lumière nouvelle sur l'histoire de la vie à la surface de la Terre. Rien n'a été plus profitable à Pasteur que l'entêtement de ses adversaires, et Weismann aura fait pour la biologie générale ce que Pouchet, Trécu, Peter ont fait pour la microbiologie.